Bonjour Antoine Villens et Jean Constance.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous présenter Portrait Manifeste. Comment est né ce projet ?
Alors, Portrait Manifeste, c'est né d'un cycle de travail autour de la parole manifestante, principalement autour des Gilets jaunes, et c'est né d'une rencontre avec le sociologue Jean Constance, donc ici présent, qui, pendant le mouvement des Gilets jaunes, avait monté une web radio militante avec une amie journaliste qui est Laurie Legac, et ils ont réalisé, pendant ce moment-là, ils ont réalisé une série d'interviews, d'entretiens et de plateaux. Et c'est en discutant avec lui de ces documents-là que nous est venue l'envie de représenter cette parole-là sur les plateaux, parce que, et lui comme nous, on estimait que les médias, pendant ces mouvements-là, les médias de masse, pour le dire très vite, avaient finalement réduit cette parole manifestante et réduit le mouvement des Gilets jaunes à des images, on va dire, très réductrices de violence, d'animalité. Voilà, donc ça nous a donné envie de s'intéresser un peu aux archives que Jean et Laurie nous ont ouvertes. Et on a créé, avant une grosse forme qui va venir, une série de 4 portraits qui nous permettent de suivre, de représenter cette parole-là sur des plateaux et qui nous permettent de suivre 4 points de vue différents autour des événements des Gilets jaunes.
Jean, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette radio que vous aviez montée à Montpellier ?
Oui, alors c'est une radio qui a été montée au mois de février 2019. Le mouvement des Gilets jaunes ayant démarré à la fin de l'année 2018, en novembre 2018, ça s'est créé par une rencontre avec notamment Laurie Legac, dont parlait Antoine à l'instant. Elle a été montée très très rapidement en tant que web radio pour justement donner la parole aux Gilets jaunes. On a fait des diffusions pendant cette période dont je vous parlais, pendant la période entre un an ou deux ans à peu près, y compris pendant la période qui était celle du Covid, mais notamment celle qui nous intéresse là, c'est celle des Gilets jaunes. Au bout d'un moment, oui, on a arrêté. Donc, ce qui est en ligne encore aujourd'hui, ce sont toutes les émissions qu'on a faites en direct. Les émissions, c'était des rencontres avec différents acteurs de ces mouvements. Donc, il n'y avait pas que les Gilets jaunes, ça, j'insiste là-dessus. Il y avait aussi des enseignants, des agriculteurs, des soignants, des associations. On donnait la parole un petit peu à tout le monde. Le but était de faire dialoguer les personnes, les faire parler entre elles. Donc ça c'était nos émissions. Et puis à côté de ça, comme disait Antoine tout à l'heure, effectivement, il y avait des interviews individuelles avec des personnes qui étaient concernées directement par le mouvement. Cette radio a fait l'objet de directs pendant toute cette période. Et elle reste aujourd'hui effectivement toujours en ligne, constituant une forme d'archive en quelque sorte. Voilà. Et on peut la consulter sur radiogine.com, je crois. Ou.fr, je ne sais plus.
Bon, les auditeurs essaieront. Alors, ce vendredi, 2 portraits sont présentés, un à 19h et un à 21h. Vous nous en dites un peu plus ?
Oui, alors sur les portraits, il faut savoir aussi que, à chaque fois, c'est l'occasion, ce sont des formes à la fois sonores et documentaires qui ont une particularité. C'est que les acteurs et les actrices, donc il y en a 4, ont dans les oreilles, ils ont un casque et ils entendent le témoignage d'origine, donc l'interview d'origine réalisée par Jean et Laurie, et eux, ils entendent ce témoignage de la personne d'origine dans leurs oreilles par le casque. Et ils redisent en direct ce témoignage-là, et à chaque fois, il y a eu un créateur sonore qui a créé comme ça une ambiance sonore qui nous replonge au cœur des manifestations. Donc ce vendredi-là, il y aura 2 témoignages de 2 points de vue différents. Un premier témoignage d'une militante qui s'est pris un tir de LBD dans la tête et qui explique ce que ce traumatisme a changé dans sa vie, son ressenti, comment elle va en manif après ça, qu'est-ce qui a bouleversé sa vie finalement, et est-ce que c'est d'avoir donné autant de temps à des manifestations. Et puis, il y a aussi le témoignage d'un policier qui a décidé de quitter la police et qui nous explique un petit peu par le menu comment, pourquoi il en est arrivé à cette décision de quitter la police et comment, selon lui, la police a dérivé depuis bon nombre d'années vers des missions qui n'étaient plus celles pourquoi il s'était engagé. Voilà.
Ok, je dois dire que ce dispositif particulier avec un casque, parce que j'ai vu moi les deux premiers portraits qui étaient au théâtre à la fin janvier, il y a une quinzaine de jours, ce dispositif, moi ça m'a vraiment évoqué quelque chose de l'urgence, le fait que le comédien soit avec le texte dans le casque, on sentait une urgence à dire ce texte, et je trouvais que ça, par rapport au thème, ça ajoutait vraiment quelque chose de très fort, quoi.
Oui, bah, tout à fait pour nous. Alors, vraiment merci de dire ça, parce que pour nous, il y a cette question-là d'urgence. Il y a aussi une question, pour nous, quelque part, de dignité aussi à s'emparer d'une parole qui n'est pas la nôtre et d'essayer de la rendre le plus dignement et légitimement possible. C'est-à-dire, il n'était pas question pour nous qu'il y ait des afféteries de comédiens ou des choses de comédiens, comme quand on apprend un texte par cœur et qu'on décide d'y surajouter des attentions. Là, il y a effectivement à la fois une urgence, une immédiateté et un respect de la parole dû à cette concentration, de devoir répéter ce qu'on entend, les accents, le ton, l'émotion de la personne dans les oreilles. Il y a quelque chose qui travaille comme ça, cette chose-là, un peu à l'os. Et Jean, tu voulais dire...
Ça, c'était une des choses dont on a discuté quasiment dès le début. Parce qu'effectivement, nous aussi, nous tenions à cette authenticité de la parole. C'est-à-dire que nous ne voulions pas effectivement de transformation par le biais de jeux un peu artificiels des comédiens. Il y a aussi cette histoire d'urgence dont vous parlez, effectivement, ce sentiment que la parole elle est sur le vif, dans le moment, dans l'instant. Et ça, je pense que ça fonctionne pas trop mal, effectivement, dans cette mise en scène. Et puis voilà, tout ça aussi montre qu'il s'agit peut-être, enfin, je ne sais pas si on le ressent bien sur scène, mais en tout cas, de quelque chose qui a l'air de se passer en direct, en fait, comme ce que proposait la radio, cette web radio, en fait, à ce moment-là.
Oui, bah ça, c'est réussi, pour ça en tout cas.
Je peux préciser une petite chose rapidement, c'est que moi, mon approche en tout cas pendant ce mouvement des Gilets jaunes était une approche à mi-chemin entre la sociologie et le journalisme. Je suis moi-même sociologue et le travail qu'on a fait était un travail effectivement à moitié entre les deux. Le but étant non pas forcément d'être nous-mêmes complètement partisans, mais de rendre compte en fait d'une parole qui, elle, effectivement, est souvent partisane. Mais le but est de rendre compte d'une parole qui a existé à ce moment-là, et comme le disait Antoine tout à l'heure, une parole qui n'a pas toujours été écoutée, nous estimions en tout cas, à sa juste valeur. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir transposer ça par le biais d'une pièce de théâtre et de rendre compte de ses propos et en laissant complètement libre le spectateur de l'interpréter, de le penser, de le réfléchir comme il le souhaite.
Oui, juste pour rebondir un tout petit peu là-dessus, c'est vrai que c'est ce qui se tisse pour nous entre la salle et la scène à ce moment-là. C'est une espèce de dialogue intérieur entre la personne qui nous livre son témoignage et nous, on dialogue presque avec cette personne-là. Moi, ça m'arrive à chaque fois que je les revois en me disant « Ah oui, je suis d'accord avec lui, je suis pas d'accord. Ah oui, enfin voilà. » Il y a une espèce de dialogue intérieur comme ça qui se tisse entre la personne qui témoigne et nous qui recevons. Et c'est ça qui, moi, à mon sens, fait aussi une chose extrêmement agréable qui nous place, nous replace, nous déplace dans notre pensée par rapport à ça. Il ne s'agit pas du tout ni d'idéologie, ni d'être partisan ou pas de quoi que ce soit, mais de donner à voir, à entendre ces corps et ces paroles-là et de les pouvoir mettre en échange et de pouvoir les mettre en échange. Ouais.
Et donc vous disiez aussi que ça allait donner lieu à un spectacle plus important.
Voilà. Oui. En complémentarité, vraiment, c'est pour ça qu'on a ouvert un cycle de travail, parce qu'on sentait bien qu'on allait devoir un peu explorer différentes formes sur, on va dire, le même dispositif. Mais il y a un spectacle qui s'appelle Manifeste, tout simplement, qui va réunir beaucoup d'autres sources. Alors cette fois, on ne va plus être du tout dans l'intimité de la parole à suivre une seule personne, mais plutôt on va dilater comme ça le temps d'une manifestation, où à l'intérieur de cette manifestation, on va mettre en lien beaucoup plus de témoignages, moins s'attacher à l'intimité des personnes, mais plus à faire dialoguer différents témoignages et différentes sources des plateaux réalisés par Radio Gine. Dans une urgence aussi, mais là, c'est plus, ça va être plus le temps, on va dire, ce qu'on va essayer de dilater, c'est un poème visuel et sonore autour d'une manifestation qui se dilaterait comme ça sur un plateau de théâtre, qui serait des formes plus collégiales, avec les deux créateurs sonores sur le plateau et les deux acteurs et actrices qui composeraient comme ça des tableaux, tout en continuant de témoigner. Donc c'est un petit peu sur le même principe, on va dire, toujours avec les casques, le son et le travail de la web radio, mais cette fois-ci, ça s'étend sur des plateaux un peu plus importants et ça compose des images et les témoignages dialoguent beaucoup plus à l'intérieur de ce dispositif.
Et ce projet, on pourra le voir quand ?
Le 7 et 8 novembre, ce sera la création, ce sera au Théâtre Jean Villard de Montpellier.
D'accord, ben on en reparlera d'ici là. Et dans le hall du Théâtre Albared, il y a aussi une exposition de Martin Marquez dos Santos, qui est créateur sonore donc, pour les deux portraits de ce vendredi. Et il est aussi dessinateur, vous pouvez nous parler un peu de son expo ?
Oui, ben l'expo, elle est née alors dans ce cycle manifeste. Donc, il y avait les quatre portraits manifestes. Moi, je suis aussi auteur à côté de mon travail de mise en scène. Et j'avais mené des ateliers d'écriture autour des souvenirs de manifestants. Et puis, comme souvent dans les ateliers d'écriture, il y a un temps d'écriture. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai écrit à partir de mes propres souvenirs. Et finalement, ça a donné lieu... marqué par les portraits aussi manifestes, ça a donné lieu pour moi à une envie d'écrire par rapport à mes souvenirs de manifestations, de mouvements auxquels j'ai participé. Et j'ai écrit tout un recueil sous forme un petit peu poétique qui s'appelle Poésie manifeste, qui est tout un recueil de mes souvenirs de lutte. Et je me suis associé avec Martin. Au départ, je lui demandais s'il voulait bien iconographier, on va dire, ce récit. Et puis, ça a donné lieu, comme ça, à une forme où, pendant que je lis, lui, il fait toute une série de 18 linogravures inspirées de mon texte, qui crée, comme ça, tout un roman graphique de 18 linogravures sur format A2, qu'il tire, comme ça, à la presse. Et, finalement, pendant la lecture, il expose, mais en même temps, l'exposition est tout à fait autonome. Et donc, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans le hall du théâtre de l'Albared. Mais aussi, là, en ce moment, elle est aussi dans le bar du théâtre Jean Villard à Montpellier aussi.
Eh bien, j'encourage donc tout le monde à aller ce vendredi au théâtre Albared pour découvrir ces portraits manifestes. Merci Antoine, merci Jean.
Et merci Julie.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.